m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie,
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme ! Au secours !
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Courtoisie, bienvenue dans Restons Courtois, l'émission débat, chaque jour en direct de 17h30 à 19h30. Au programme de cette émission, deux invités, comme chaque mercredi. Nous recevons tout d'abord Jérôme Fehrenbach, haut fonctionnaire, historien, surtout auteur de La République épuisée, le retour nécessaire des vertus chrétiennes chez l'artilleur. Donc on parlera, vous l'avez compris, de la fatigue du modèle républicain, de l'épuisement moral de la vie publique et de cette question centrale, la République peut-elle encore tenir sans la chrétienté, socle culturel et moral sur lequel s'appuie la République. À 18h30, nous recevons Marguerite Frison-Roche, fondatrice de Disruptif, qui est non pas un nouveau fonctionnaire ou un plan de je sais pas quoi macroniste, qui est tout simplement un think tank, un nouveau think tank, donc un laboratoire d'idées consacré aux politiques culturelles, au rayonnement français et au renouveau esthétique. Bref, tout un programme. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez bien entendu participer à l'émission et poser vos questions à nos invités par téléphone ou par courriel. Jérôme Fehrenbach, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir.
Donc vous êtes historien, vous avez publié de nombreux ouvrages, et donc vous publiez aujourd'hui La République épuisée, le retour nécessaire des vertus chrétiennes chez l'artilleur, et dans ce livre vous posez une question assez redoutable. La République française, après un siècle et demi d'existence stable, n'aurait-elle pas conservé qu'un seul acquis véritable ? La sécularisation totale de la société tout en perdant son socle moral, culturel et spirituel. Donc autrement dit, vous ne décrivez pas seulement une crise politique ou institutionnelle, mais une fatigue bien plus profonde, celle d'un régime qui continue d'exiger l'obéissance mais qui ne sait plus très bien au nom de quoi, et au nom de quoi il commande, et celle d'un espace public où le sens commun, lui, s'est affaissé. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons une tradition très républicaine, c'est de passer nos invités à la question.
Ne perdons pas notre temps.
Ils peuvent me tuer, je parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
C'est vous.
Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler.
Quel est le plus grand mensonge républicain ?
Bon, alors on peut d'abord dire que mensonge république ne rime pas forcément très très spontanément. Je pense que le livre que Édouard Philippe a écrit il y a, en 2025 peut nous soulager de ce point de vue-là, puisqu'il comporte bien le mot mensonge. Reproche au système, peut-être à lui-même, un certain nombre de mensonges. Contre-vérité ou vérité partielle ou vérité voilée, je pense qu'il y a au moins deux choses qu'on peut dire. C'est un élément tout bête, en fait, c'est ce que j'appelle le mythe de l'équivalence démocratique, c'est-à-dire cette idée extrêmement répandue, très, très fausse et très simple, dont la fausseté est très facile à démontrer, selon laquelle république égale démocratie, qu'il n'y a pas de démocratie sans république, ce qui est évidemment un raccourci tout à fait hâtif et donc à mon sens en partie mensonger. Et j'aurais aussi le souhait de citer peut-être un autre mensonge, une autre vérité très partielle, très, très travestie, qui est celle de la réalité du déficit. Le déficit n'est pas de 5% du PIB, le déficit est de 25% par rapport à l'ensemble des dépenses, et surtout quand on prend l'ensemble des besoins de financement de l'État, il est plutôt de 50%, puisque il faudrait, pour être tout à fait régulier, il faudrait prendre également en compte le remboursement de la dette à long terme, qui est de plus de 200 milliards par an. Donc là aussi, c'est une vérité qui n'est malheureusement pas révélée dans sa plénitude, bien au contraire.
Quel est le plus grand sport de nos élites, en tout cas leur sport préféré ? Administrer, moraliser ou esquiver ?
Oh, j'ai quand même tendance à dire administrer. Alors administrer avec ce que ça peut comporter de limitant également. Je pense qu'on a beaucoup de personnes de très bonne volonté et que le propre de la technocratie, c'est ça. La technocratie n'exclut absolument pas la bonne volonté. Et le propre de cette technocratie, c'est d'administrer en pensant bien faire et en tournant par moments probablement un peu à vide. En manque de perspective, en manque de visibilité, peut-être en manque d'autorité.
S'il fallait choisir qu'une seule constitution dans l'histoire de France, ce serait laquelle ?
Eh bien, peut-être au risque de vous surprendre, je vais faire deux réponses. Une réponse convenue et une réponse pas convenable du tout. La réponse convenue, c'est que je prendrais celle de 1958, mais celle de 1958, c'est-à-dire pas celle d'aujourd'hui, très fortement marquée par énormément d'altérations. Premièrement, parce que je pense que c'est un bon ensemble de règles qui était conçu pour fonctionner assez admirablement, à vrai dire, avec pas mal de pression de beaucoup de choses, et réponse non convenable. Eh bien, j'aime beaucoup, j'ai un faible pour la Constitution de 1814, je dois l'avouer, pour la Charte de 1814, plus exactement, que je trouve très, très belle. Et enfin, si vous m'autorisez, celle de 1848, je l'aime pour son préambule, mais uniquement pour son préambule.
Vous nous rappelez son préambule ?
Eh bien, son préambule, justement, est un très bon équilibre dans le dosage des devoirs et des droits des citoyens entre, justement, des devoirs qui sont très explicites et des droits qui, à mon avis, ont une assez forte inspiration chrétienne, à vrai dire.
Plutôt Bismarck ou Émile Combes ?
Alors, vous me demandez de choisir entre la tuberculose et le choléra, peut-être. J'aurais peut-être tendance à dire, tout bien pesé, c'est très difficile, mais je préférais légèrement Bismarck, peut-être, parce que même si c'est un personnage d'une grande brutalité, qui est un menteur invétéré, un personnage très rusé, très, très perfide et très violent, eh bien, il a le mérite d'une certaine visibilité dans son action, d'une certaine franchise, et très régulièrement, il le perd à découvert, de façon frontale, un peu brutale, par moments un peu maladroite, un peu gauche, alors que je pense que Émile Combes était probablement par formation, par psychologie, beaucoup plus sournois que ne l'a été Bismarck.
C'est comme au foot, toujours les Allemands qui gagnent à la fin. L'événement historique auquel vous auriez aimé assister ?
Eh bien, alors ça fait très Marc Bloch, mais je l'assume bien, c'est que j'aurais bien aimé assister au baptême de Clovis, parce que c'est un moment d'émotion nationale qui je pense, devrait être encore très fort. Et sinon, comme autre événement... Peut-être pour vous surprendre, j'aurais aimé savoir ce qui s'est passé dans les têtes des protagonistes en janvier-février 1651, lorsque Mazarin a libéré les princes à un moment de la Fronde, ce qui a déclenché un épisode tout à fait rocambolesque de fuite de Mazarin, de libération des princes, de guerre civile. Qu'est-ce qui a mené Mazarin et Anne d'Autriche à prendre cette décision-là ? Au fond, je crois que le secret ou le mystère n'est pas complètement dissipé. C'est un moment très très curieux que cette année 1651 en France.
Bah, ça, on ne le fait jamais. Clovis, ça arrive souvent. Alors, étonnamment, le vase de Soissons, personne, alors que ça m'attirait plus que ça. Bon, bref. Cassoulet ou confit de canard ?
Alors, mais écoutez, je ne sais pas s'il y a une référence politique par derrière, si derrière le cassoulet, il faut voir le socialisme cassoulet ou le radical socialisme cassoulet, je pencherai plutôt pour le confit de canard, qui me paraît plus sobre et voilà, un petit peu plus, peut-être finalement un petit peu plus dans le terroir que le cassoulet.
Plus simple aussi.
Peut-être plus
quand
simple.
Quand on commence
et
à cacher.
Plus digeste aussi, voilà. Ouais.
Non, ça dépend. Ça dépend de la cuisson, monsieur Derrico. S'il fallait hiérarchiser la devise de la République ?
Eh bien, pour moi, le principal thème devrait être la fraternité, qui est vraiment le grand élément oublié, devenu inopérant, devenu d'une extrême fadeur, alors que c'est lui, à mon avis, qui devrait donner le plus de tonicité, le plus d'énergie à la République, à l'idée républicaine, ou ce qui peut en rester.
Et en dernier, vous mettrez quoi ?
Et en dernier, je mettrai l'égalité, parce que l'égalité a été déjà trop facilement altérée par un égalitarisme qu'on a souvent évoqué sur votre antenne, à telle enseigne que beaucoup de raisonnements me semblent très viciés, notamment le raisonnement autour de la justice sociale, de la justice fiscale, me paraissent en soi assez dangereux, en tout cas extrêmement glissants.
À part Jean-Luc Mélenchon, la République, c'est qui ?
Alors... j'aurais tendance à dire que si on considère que dans la République il doit y avoir de la bonne volonté, du sérieux, une forme peut-être de chez les responsables j'emploie le mot responsable volontairement, d'anxiété par rapport aux résultats à atteindre et par rapport au bien commun, je mettrais vraiment facilement Bruno Retailleau, mais ça c'est évidemment c'est une réponse très personnelle. Je crois que vous attendez des réponses très personnelles à ce qui
exactement. Justement, voilà. Question très personnelle, essentielle, qu'on pose pas assez. Jean-Pierre Madère ou Claude Nougaro ?
Eh bien, alors je suis né à Toulouse, c'est peut-être pour ça que j'ai le droit à ces questions-là. J'avoue que ni l'un ni l'autre ont éveillé chez moi une véritable passion. Et donc, j'aurais franchement du mal à les départager. L'un et l'autre expriment une certaine nostalgie, me semble-t-il, dans laquelle je peux me retrouver. Une certaine poésie. Mais franchement, c'est pas ça qui me fait vibrer, y compris à Toulouse, c'est pas ça qui me fait vibrer.
Alors, l'ancien régime en trois mots ?
Eh bien, je dirais douceur de vivre, je dirais empirisme et je dirais absurdité.
L'empire en deux mots ?
L'empire en deux mots, je dirais fulgurance et amertume.
Et la République en un mot ?
La République en un mot, je dirais malheureusement désillusion.
Et enfin, dernière question, vous avez la joie, l'opportunité, la chance d'organiser ou de participer à un dîner avec 5 personnages historiques, vous avez le droit de convoquer des morts également, vous choisissez qui ?
Alors d'abord, il faudrait imaginer que tous donnent au dîner l'appellation qu'on lui donne aujourd'hui, donc... c'est pas complètement garanti au fil des âges. Eh bien, c'est un peu singulier parce qu'il faut imaginer que les convives passent un moment agréable ensemble, bien sûr, qu'ils se comprennent aussi linguistiquement. Allez, on pourrait mettre l'empereur Auguste, on pourrait mettre Saint Louis, qui me paraît toujours très personnage, toujours assez mal détouré, y compris par les biographies, dans sa dimension chrétienne justement. Le cardinal de Fleury, comme très long ministre, très âgé, très sage, à mon avis, hein, de la première moitié du règne de Louis XV. Aristide Briand, parce que pour moi, c'est un personnage très profondément mystérieux. Donc, si tant est que dans un dîner, on puisse rêver des personnages à plein de dimensions, plein de couches, éminemment sympathiques d'un certain côté, assez ténébreux probablement par d'autres aspects. Et puis enfin, alors là, c'est très, très facile, et pourtant, je suis obligé de le lâcher. Le général de Gaulle, j'aurais aimé savoir aussi sur un certain nombre de questions privées, très, très intimes, y compris de foi et de morale, ce qu'il pouvait avoir dans le cœur.
Merci, Jérôme Fehrenbach. Maintenant qu'on se connaît un peu plus, on va rentrer en profondeur dans votre livre « La République épuisée, le retour nécessaire des vertus chrétiennes » chez l'Artilleur. Alors, la République épuisée, mais elle est épuisée de quoi la République aujourd'hui ?
Alors d'abord, je pense qu'elle est épuisée par un certain nombre de dysfonctionnements qui sont très, très régulièrement relatés, décrits, à longueur de journaux. Parce que, à vrai dire, je pense qu'une radio comme vous peut se féliciter du fait que depuis, à mon avis, 2 ou 3 ans au moins, je ne sais pas si exactement à quel moment se produit la césure. Je trouve qu'on assiste, y compris dans des journaux, dans des feuilles très, très, on va dire, d'inspiration centriste ou de droite modérée, à une liberté de ton qui est considérable, en fait, avec un brassage d'idées qui est extrêmement fort et un niveau de critique, parfois très acerbe, et qui malheureusement, sur certains points, me paraît complètement injustifié, en tout cas très honnête. Et donc épuisé à cause de certains dysfonctionnements et d'éléments de dérèglement liés à des formes de re-régulation ou de recalage constitutionnel en particulier depuis l'an 2000 qui n'ont pas fonctionné. Premier point. Deuxièmement, épuisé parce que, si vous voulez, pour moi, la Constitution, c'est un peu comme un fuselage, en fait. C'est un système politique qui est comme un fuselage qui est lancé à travers l'espace soi-disant vide, mais en fait très, très tourmenté. Et j'ai le sentiment que ce fuselage est soumis à des pressions tout à fait inattendues qui menacent de faire imploser ou exploser la structure et qu'on ne pouvait évidemment pas prévoir en 1958 et qui sont, je pense, complètement dépendants des uns et des autres. Le troisième point, le troisième élément, c'est que j'ai l'impression d'un épuisement par le fait que l'on tourne à vide. Autour d'un idéal républicain qui est devenu, à mon sens, une forme d'idéologie et peut-être une forme d'idolâtrie et qui, je pense, est très desséchante. Je trouve qu'il y a un chiffre qui est très... des chiffres qui circulent en ce moment. Il y avait encore une interview de Brice Naturier hier dans Le Figaro nous rappelant qu'à peu près 80 ou 81% des Français ont à l'égard du politique ou des politiques une réaction de colère, de rejet, d'indignation, d'amertume, de déception, contre 11%, je crois, qui éprouvent encore une forme d'enthousiasme par rapport au fonctionnement du politique. Je crois que c'est un signal très, très grave sur une forme de dévidement, en fait, d'affaissement ou dévidement d'une forme d'idéal qui devrait nourrir la vie publique et l'espace politique.
Alors, vous commencez votre livre sur la mythologie, pour expliquer justement ce... Peut-être qu'il y a des incompréhensions, peut-être qu'il y a un ras-le-bol, peut-être qu'on ne comprend plus ou que les mots ont été dévoyés et qui participent donc à cette fatigue de la République. Alors je propose qu'on comprenne un peu par quoi vous commencez, parce que c'est toujours important de partir des mythologies, parce que ce sont les mythes fondateurs, c'est ce en quoi on croit, le commun accepte de participer, et si on ne vit pas ensemble, on agit ensemble, c'est au nom ou pour ces mythes. Alors, vous l'avez un peu évoqué dans le questionnaire de Proust sur justement la confusion entre république et démocratie. Et en quoi cette confusion participe-t-elle de cette fatigue ?
En fait, de manière assez générale, je pense que les Français, comme n'importe quel citoyen de pays développé, ont besoin qu'on leur parle aussi vrai que possible et qu'on évite de les encombrer de fables ou de récits pour enfants. Et donc, cette partie de l'ouvrage recense un certain nombre de mythes. Peut-être que chacun d'entre nous ne croit pas ou n'a pas été assaisonné ou exposé à ces mythes, mais plusieurs me paraissent tellement simplistes qu'ils sont malhonnêtes par rapport au devoir de vérité qu'on a envers nos concitoyens. Et donc, le premier mythe, vous m'interrogez sur...
Sur la République et la démocratie.
Oui, bah en fait, si vous voulez, moi je suis assez sidéré de voir que beaucoup de gens, même d'ailleurs parfois assez bien informés, ont cette équivalence en tête et qui n'arrivent pas à imaginer qu'il y a eu des régimes démocratiques ou semi-démocratiques par le passé qui n'étaient pas de nature républicaine. Je prendrai l'exemple du Second Empire, en tout cas de la deuxième partie du Second Empire, qui est un dit empire libéral, où les modes de fonctionnement sont quasi démocratique, on va dire, et ça les Français ignorent complètement. Je prendrai l'exemple, au moins pour la démocratie locale, de la monarchie de Juillet, où on va dire que la démocratie municipale fonctionne de manière tout à fait correcte et assez semblable finalement à celle de la France des années 1950. Autre exemple aujourd'hui, beaucoup plus contemporain, évidemment, il y a beaucoup de pays européens, comme vous le savez, ça c'est une évidence, mais une évidence qu'on perd de vue régulièrement, je ne sais pas pourquoi, beaucoup de pays européens qui vivent sous un régime de monarchie constitutionnelle et qui sont parfaitement démocratiques, et des pays voisins tout à fait importants, tout à fait significatifs. Alors pourtant, ça me paraît très surprenant, parce que ce mythe est très difficile à contourner ou à néantir, et je trouve qu'il a la vie relativement dure, en fait, c'est en tout cas une espèce de réflexe immédiat quasiment pavlovien. Dès qu'on imagine république, dès qu'on imagine démocratie, pardon, en France, on imagine une équivalence stricte, une relation stricte avec le terme de république.
Rémi Carlu.
Oui, l'un des autres mythes très importants, peut-être l'un des mythes fondateurs de la République, au moins de la Troisième République, c'est la question de l'école, auquel vous consacrez un paragraphe assez frappant. Donc est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Qui a inventé l'école? Est-ce que c'est Charlemagne ou Jules Ferry?
Alors, c'est ni l'un ni l'autre. J'aurais tendance à dire que l'école s'invente, se réinvente et se propage fortement à partir de la contre-réforme, en réalité, à partir du moment où l'Église catholique a réalisé qu'il était important pour elle d'opposer des contre-feux intelligents à la propagation du protestantisme. Elle s'est mise à encourager fortement, voire très fortement, la diffusion, en tout cas en dehors du milieu urbain, à assez grande échelle, voire à grande échelle, d'un système d'enseignement, certes un peu bancal, pas parfaitement dense partout sur le territoire, mais en réalité assez présent, et assez présent pour toutes les couches sociales, et probablement assez proportionné aux besoins que le pays pouvait éprouver à cette époque-là. Donc il y a vraiment eu un désir, je crois, très très manifeste, qui s'est traduit en chiffres, hein, puisque on voit très bien que les taux d'alphabétisation doublent entre le milieu du règne de Louis XIV et la Révolution, donc pour atteindre des proportions très très significatives. Et honnêtement, contrairement aussi à beaucoup d'idées reçues, en 1881, lorsque la politique de Jules Ferry se déploie, quasiment tous les Français des deux sexes sont totalement alphabétisés, savent lire et écrire. Alors je reconnais que la qualité de l'enseignement était sans doute variable d'une région à une autre, il y avait un manque d'homogénéité, que sous la monarchie de Juillet, justement, on avait laissé, Guizot avait laissé, avait fait une obligation un peu théorique aux communes, en les laissant libres de leurs moyens. Il y avait certainement des inégalités sur le territoire, la formation des enseignants est peut-être très variable, mais enfin, je pense que la mémoire familiale dans à peu près toutes les familles remonte peut-être jusqu'à la fin du 19e, et je pense que personne n'a le souvenir d'écoles absentes ou d'ancêtres totalement ignorants dans les années 1870 ou 1880, avant que n'advienne cette vaste politique de Jules Ferry, qui s'identifie à Jules Ferry.
Il y a alors un autre mythe qui est intéressant parce qu'il est complètement d'actualité à cause d'un film, Les rayons et les ombres, de Xavier Giannoli. Depuis 3 semaines, il fait débat. C'est très intéressant, ça fait longtemps qu'un film n'avait pas fait débat et ça prouve qu'on a encore un commun, ce qui est pas mal, mais on voit que il fait débat parce que peut-être un mythe s'écroule. Et vous parlez justement dans les mythologies de la République, le mythe de la République résistante.
Oui, ça a été un mythe, à mon sens, vraiment nécessaire pour justement le vivre ensemble, un peu comme il y a eu des mythes parallèles, en fait, en Allemagne après la guerre de 40, après 1945, qui ont permis de ne pas massivement épurer et de conserver un semblant d'organisation sociale. Donc c'était probablement un mythe nécessaire, et on le voit bien dans, alors vous évoquez le cas de Luchère et du film récent, mais on le voit bien dans le cas de Céline, et finalement de l'interruption des poursuites contre Céline, qui est un cas quand même parfaitement manifeste de retournement du ministre de la Justice en personne, en fait, puisqu'on pense que c'est lui qui a demandé à ce que les poursuites soient interrompues. Donc là, c'est peut-être le mythe sur lequel je serais le moins sévère, parce que la cruauté de cette période exigeait probablement qu'il y ait cette forme de raccourci. Le mythe a été après, ressoulevé, ressuscité, ressurgi à partir des années 90, quand on a dû, pour différentes raisons liées à des contentieux de droit administratif, on a dû faire le tri dans le régime de Vichy de ce qui relevait des responsabilités de l'État français, de ce qui n'en relevait pas vraiment. Donc on nous a expliqué, avec des arguments à la fois historiques et juridiques assez complexes, à vrai dire, que la légitimité républicaine s'était d'un seul coup transportée à Londres. évidemment, je pense que pour nos concitoyens, les raisonnements ne sont pas très, très faciles à suivre. Ceci étant, il faut reconnaître à Jacques Chirac le fait d'avoir reconnu tout à fait la responsabilité de la France et de l'État français pour beaucoup de choses, et c'était certainement très bien. Donc, les pirouettes autour de ce mythe, à mon avis, ont été assez limitées, et le mythe était lui-même probablement nécessaire. Est-ce qu'il doit être encore fondateur aujourd'hui? Est-ce qu'il doit être un socle de notre idée républicaine? Je ne le pense pas. Je pense qu'on peut avoir la maturité maintenant de reconnaître, de voir beaucoup de choses en face, comme le film de Xavier Giannoli nous invite à le faire.
Et avant la guerre, il y a la grande réconciliation, la République pacifiante, comme vous l'expliquiez, alors qui est plus ancienne, qu'on remonte en tout cas à une mémoire plus ancienne. En quoi c'est un mythe, la République pacifiante?
Bah écoutez, en fait, si on regarde depuis 1875, en fait, grosso modo, on a eu quasiment constamment des conflits, alors, en fait, assez sévères, hein, des déchirures très sévères qui ont été soit provoquées, soit permises par la République. Et sans idéaliser les régimes précédents et dire que la République est pire que les régimes précédents, en fait, elle n'a en tout cas pas su entraver ou prévenir certains éléments de discorde nationale. C'est apparu très rapidement, dès finalement l'épisode de Mac Mahon, des années suivantes. On a assisté vraiment à des tensions qu'on a un peu oubliées après dans les horreurs de 1914, qui ont réuni les Français autour d'un même idéal patriotique, mais les tensions étaient quasiment permanentes et sans l'oubli complètement, puisque la vision qu'on pouvait avoir un peu sublimée par une perception sans doute un peu enjolivée de ce qu'a été la belle époque, mais ses avantages et sa prospérité économique, mais cette période de tension constante et d'ostracisation du catholicisme qui est très dur en fait. Hein. Et après, bon, on ne va pas peut-être faire on n'a pas eu le temps, je pense, de prendre décennie par décennie, mais en fait, les périodes de grande paix et de grande concorde nationale, sans fracture, sans rupture et sans conflit qui mettent au banc une partie de la société ou de l'espace politique, ces périodes sont très rares, à mon avis.
Rémi Carlu.
Vous posez le constat dans ce livre d'une République épuisée non pas au sens de la classe politique ou de la prochaine élection, mais vraiment au sens presque de l'essence de la République. Tout commence en mystique et finit en politique, disait Péguy. Considérez-vous que la mystique républicaine existe encore ou qu'elle tourne à vide? Et surtout, moi, j'aimerais avoir votre regard, puisque vous êtes fonctionnaire, vous avez travaillé dans des administrations, dans des ministères, je crois. Est-ce que la mystique républicaine est encore vivante dans ces endroits qui sont censés être le cœur battant de la République aujourd'hui? Ou est-ce que là aussi, la République est chancelante?
Je pense que la République fonctionne et que la fonction publique fonctionne de façon peut-être à certains moments encore assez admirable à vrai dire, avec des gens extrêmement dévoués. Je pense qu'il n'y a plus de véritable idéal, je pense que c'est perdu de vue. L'idée républicaine finalement qu'on a un petit peu de mal à identifier, si ce n'est comme négation, comme rejet d'un système monarchique, il faut aller la chercher, je pense, dans ce livre qui est vraiment très beau et très intéressant, qui fait référence, qui doit toujours faire référence, qui est celui de Claude Nicolet sur l'idée républicaine en France, qui explique bien la maturation de cette idée républicaine et la façon dont elle s'est finalement cristallisée au moment du Second Empire, donc dans les années qui ont précédé l'avènement de la Troisième République. Il explique de façon très belle et en très résumé, finalement, c'est l'idée que la République doit élever le niveau intellectuel et moral de tous les citoyens, de sorte qu'ils accèdent à une maturité politique qui leur permette d'exercer leur discernement librement dans un cadre démocratique et de se prononcer de façon émancipée, libre et dans un esprit de communion nationale. Je pense que l'idée républicaine, c'est essentiellement le noyau, était ceci, aurait probablement dû rester ceci. Et je pense qu'on l'a perdu de vue et que l'idéal républicain aujourd'hui consiste surtout à maintenir ensemble, coller, agréger des éléments d'une société qui est extrêmement fracturée, extrêmement segmentée, et qu'on s'épuise aussi dans la recherche de ce lien, un lien qui me paraît un peu artificiel parce que privé du regard sur le passé. Là où la République me paraît un peu dangereuse, un peu contre-productive aujourd'hui, c'est lorsqu'elle est présentée comme une espèce de rideau occultant qui masque la France dans son épaisseur, sa profondeur, sa longueur, sa pesanteur parfois aussi, mais au fond toute sa beauté sur le très long terme. Mmh. Et je trouve que ce rideau occultant que tantôt on fait baisser en 1943, tantôt on fait baisser en 1906 au jugement de la Cour de cassation sur l'affaire Dreyfus, qui clôt l'affaire Dreyfus, je trouve que ces rideaux ne font progresser personne, surtout dans une époque où la culture historique est un peu en déclin, où la formation historique dans l'enseignement scolaire a plutôt reculé. Et je pense que ça fait grandir personne que de nous priver de ce regard sur un passé qui qui est exceptionnellement riche et qui devrait être une source de fierté toujours pour les Français de tous bords, hein, qu'ils soient des républicains ou non républicains, il y en a un peu, mais je pense que c'est un élément de fierté, un facteur, un motif de fierté extrêmement puissant.
La République est-elle un régime qui a besoin peut-être plus que d'autres régimes de mythes ?
Oh, je pense que chaque régime a ses mythes, mais oui, je pense que votre, en fait, je pense que votre que la réponse est dans votre question. Je pense que curieusement, sous la monarchie absolue, il n'y a pas de véritable mythe. Il y a une telle incarnation dans un personnage qui, depuis qu'il était désigné par la destinée ou la généalogie comme étant devant être revêtu de telle fonction, il y a une telle imprégnation. Que je pense que l'idéologie est absente et que soit la répétition, soit la continuité sont la volonté de perpétuation sont vraiment des moteurs suffisants pour propulser le politique dans les décennies hein, qui sont celles de l'ancien régime. Donc je pense que oui, je pense qu'effectivement la République a besoin peut-être plus de mythes, oui, vous le disiez très bien.
Et donc plus fragile, naturellement.
Je pense qu'elle est plus fragile, oui.
Et alors, vous avez dit que dans certains cas, la République fonctionne encore très bien. Dans quel cadre elle fonctionne aujourd'hui, la République ?
Ben, si vous voulez, alors on n'en voit malheureusement pas les résultats, mais ce que les résultats sont décevants et je pense que ça fait partie de l'épuisement. J'évoquais tout à l'heure, lors de votre questionnaire de Proust, la question des déficits publics. On a encore, et c'est là où encore, et heureusement, un personnel qui est de très grande qualité, et d'où l'impression qu'on peut avoir d'un gâchis ou une déperdition d'énergie qui est gigantesque.
Quand vous parlez de personnel, vous parlez par exemple de haut fonctionnaire, techniciens.
On a encore des personnes de très très grande qualité, si.
Et donc le problème, c'est pas justement
qui travaillent énormément. Et donc comment se fait le quand tout ceci s'assemble, comment est-ce que l'autorité se déploie réellement, comment est-ce que l'ensemble de la machinerie se met en mouvement, ça paraît compliqué. Alors il y a un élément que je n'ai pas livré qui me paraît assez juste, même si ça paraît peut-être un peu technique, peut-être pour les auditeurs, c'est que la production législative, ça on le voit et c'est dénoncé tous les jours, est devenue quasiment impossible dans le contexte politique éclaté que nous avons. Mais la production réglementaire aussi est devenue extrêmement difficile depuis un certain nombre d'années. Et c'était une des forces de la Constitution 58 que d'imaginer avec son article 37 un pouvoir réglementaire autonome assez dégagé, on va dire, de toutes sortes de contraintes. En fait, cet espace de l'article 37 s'est dans les faits réduit par peut-être une petite forme de prudence, voire de pusillanimité, et la production réglementaire, qui est importante pour la vie d'un pays, y compris pour simplifier la vie des Français, devient très, très compliquée.
Que les politiques ne s'en saisissent pas ? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun blocage institutionnel, mais ce sont les politiques qui ne sont pas, responsabilités.
Non, je pense que c'est 20 à 40 ans de mode d'exercice de ce pouvoir, et dont les mécanismes échappent très largement. Aujourd'hui, pour produire un tel ou tel décret, on a un nombre de consultations préalables qui est extrêmement important. Alors, là où mon propos est compliqué, c'est que je ne peux pas dire dans l'absolu que telle ou telle consultation soit toxique, nocive ou qu'elle soit intrinsèquement perverse du tout. C'est pas du tout ça mon idée, mais globalement, on a une complexité dans le cheminement de la production réglementaire qui entrave très très fortement l'action de ce qui devrait être normalement un levier assez facilement maniable.
Marc Aubryon.
Oui, donc c'est juste pour revenir un peu sur l'histoire du mythe. On se souvient qu'à la base du projet Jacobin, il y avait effectivement cette volonté de remplacer Dieu donc par un mythe prométhéen, et qui était très lié donc au monde des Lumières. Est-ce que justement ce mythe qui a fait long feu, qui a été balayé après par le capital, est-ce que ce mythe n'est pas resté finalement une sorte de d'angle mort de la République encore maintenant, et empêche justement la République de façonner sa propre adhérence?
Bah, très, très, très clairement, la République en ceci pousse peut-être un peu à l'extrême l'évolution de beaucoup d'États modernes, je veux dire à partir du 19e siècle en fait, au sens où il y a un refoulement de ce qui est métaphysique, un refoulement du transcendant qui n'est pas propre à la République mais qui est particulièrement prononcé chez celle-ci. Est-ce que c'est véritablement un projet, un programme ? Ça, je ne saurais dire, mais ça a été un des éléments les plus constants de la République, oui, entre 1875 et nos jours, en fait. Hein. Cette volonté de purge, de refoulement et peut-être d'étouffement, en fait, une forme d'expression de la foi.
Alors, nous avons une question d'un auditeur. Un bon cassoulet, comme celui de Castelnaudary, doit être simple, léger, sans l'acidité de la rouge tomate et au confit de canard roudois, sans trop de graisse. Rien de contradictoire donc, la volaille est toujours confite, certes, est-ce par vocation ? Une république non vautripotente et sans graisse démagogique ne devrait-elle pas prendre des lois que portant sur un texte approuvé à l'identique par les deux chambres, qui garantirait par la différence de leur mode de constitution une représentation moins biaisée de ce mythe, le peuple dit souverain ?
Alors, oula, c'est une très belle question, c'est presque un programme.
Non sans lien avec le cassoulet.
Oui, sur le... Écoutez, alors, je vais répondre très brièvement, parce qu'en fait, je suis assez citoyen, tout à fait d'accord avec cet auditeur, au sens où je pense qu'un des facteurs de déséquilibre actuellement, c'est la répartition des pouvoirs entre les deux assemblées, et que le Sénat devrait avoir, au moins dans certains domaines, des pouvoirs plus importants, et peut-être même dans certains... domaine, j'ose le dire, le pouvoir d'avoir le dernier mot, que ce ne soit pas l'inverse. On a une capacité de recul au Sénat qui est vraiment très, très importante, et une forme de retenue peut-être et de sagesse qui est plus importante et qui tempère, ce que je dis est assez banal, c'est propre d'une chambre haute, mais je crois que c'est assez nécessaire dans les temps que nous traversons.
C'est vrai qu'on se demande souvent à quoi sert le Sénat en fait, parce que dès qu'il y a une loi, par exemple, on prend la loi euthanasie qui va revenir là dans les prochaines semaines, on se dit, bon, ce qui compte, c'est le vote à l'Assemblée, parce que de toute façon, au Sénat, et quels que soient les votes qu'ils feront, ça reviendra à l'Assemblée, l'Assemblée aura le dernier mot, donc on a l'impression que c'est juste une gare obligatoire de passage, mais qui n'a strictement aucun poids décisionnaire.
Alors, votre constat général est malheureusement probablement assez juste, même si on a, indépendamment de ce texte-là, heureusement des cas où le Sénat apporte au moins en qualité légistique des éléments très, très importants. Sur votre exemple, peut-être que les faits vont vous démentir. Au fond, peut-être que le calendrier jouera.
C'est possible.
De manière opposée à ce qu'on pourrait imaginer.
C'est possible. Une autre remarque d'un auditeur, mais qui n'est pas sans lien peut-être avec ce que vous expliquiez un peu plus tôt sur la qualité de certaines personnes, donc ce qu'on peut appeler des techniciens ou des hauts fonctionnaires. Donc cet auditeur nous rappelle cette citation de Valéry Giscard d'Estaing, de ce discours de 78. Le président de la République n'est pas un partisan, il n'est pas un chef de parti, il est à la fois arbitre et responsable. Est-ce que le problème de la République, justement, c'est que beaucoup d'hommes politiques, et en premier lieu le chef d'État, a oublié cette citation ?
Eh bien, je pense que la réponse est dans la question.
Absolument.
Et je n'incriminerai d'ailleurs personne en particulier. C'est qu'à mon avis, pour le coup, c'est vraiment totalement lié à l'élection au suffrage universel direct. C'est une conséquence tout à fait immédiate qu'en fait, le président de la République est forcément le chef d'un parti gagnant. Et donc, avec une organisation qui conduit à la victoire, qui exige des promesses, des récompenses. Et voilà.
Chers auditeurs, il est 18h, vous êtes dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie. Nous recevons Jérôme Fehrenbach pour son livre La République épuisée, le retour nécessaire des vertus chrétiennes. Ça va être l'objet de la deuxième partie, vous l'aurez bien compris, chez l'artilleur. Mais vous savez que Radio Courtoisie, surtout son bon président Pierre-Alexandre Bouclet, aime beaucoup le cassoulet. Et le cassoulet de Castelnaudary à la Grèce doit précisément, mais ça coûte cher. Et donc, il nous a besoin de vos dons. Parce que sans Pierre-Alexandre Bouclet, ben là, évidemment, la radio ne traînera pas. Et vous savez que l'un des fuels principaux pour réfléchir, se motiver, combattre, c'est le cassoulet.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Restons courtois. Arthur de Vatrigan.
Et oui, 18h03, vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, mais vous savez qu'à 18h le mercredi, c'est l'heure de la chronique de Rémi Carlu qui va nous raconter, ou plutôt nous apporter son regard sur ce combat de MMA entre Léon XIV et Donald Trump.
Oui, cher Arthur, j'avais bien d'autres projets de chronique, mais j'ai dû jeter mes brouillons à la poubelle quand j'ai découvert, halluciné, les déclarations incendiaires de Donald Trump à l'égard de Léon XIV, celui-là reprochant à celui-ci d'avoir fait son travail de pape, c'est-à-dire de critiquer l'éthique de la puissance et de se faire l'avocat de la paix. Tout a commencé dimanche. Je ne suis pas un grand fan du pape Léon, déclarait Trump, l'accusant notamment de faire joujou avec un pays qui souhaite se doter de l'arme nucléaire. Lundi, le président récidivait dans un long message qui accusait pêle-mêle Léon XIV de soutenir le programme d'armement nucléaire iranien, de s'être opposé à l'opération militaire au Venezuela et de rencontrer des sympathisants de Barack Obama. « Je ne veux pas d'un pape qui critique le président des États-Unis parce que je fais ce pourquoi j'ai été élu », poursuivait-il. Surtout, il expliquait que Léon a été élu pape parce que le Vatican aurait vu dans cet Américain le meilleur moyen de contrôler Trump. « Si je n'étais pas à la Maison-Blanche, Léon ne serait pas au Vatican », concluait-il, non sans une certaine humilité. Mais pas encore satisfait, le même Trump partageait peu après un montage de lui en Jésus-Christ thaumaturge, image depuis supprimée, Trump arguant qu'il n'était pas figuré en Christ, mais en médecin. Non, vous n'avez pas vu ce que vous avez vu. Depuis l'Algérie où il était en voyage, le souverain pontife est resté bien sûr droit dans ses bottes, rappelant qu'il n'était pas un politicien, n'avait pas l'intention de rentrer dans ce genre de polémique. Je n'ai pas peur ni de l'administration Trump, ni de m'exprimer haut et fort sur le message de l'Évangile.
Alors quel enseignement tirez-vous de cette séquence ?
Le premier et le plus évident enseignement, c'est qu'une question que l'on croyait définitivement disparue se pose à nouveau frais. Quel est le cadre théologico-politique dominant, ou plutôt, comment s'articule pouvoir temporel et spirituel ? Le simple fait que les dirigeants des États-Unis soient tenus de prendre publiquement position sur cette question, vis-à-vis de l'autorité papale, montre que nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Pareille passe d'armes n'aurait pas eu lieu il y a 40 ans, quand le consensus libéral était pleinement établi, quand les philosophies d'Habermas et de Rawls dominaient l'Occident, quand le prophète Fukuyama annonçait la fin de l'histoire. Longtemps occultée, la question des relations entre les pouvoirs temporels et spirituels est à nouveau au cœur de la vie politique occidentale, au moins américaine. Bienvenue dans l'ère post-libérale. Si Trump s'est senti obligé de rétorquer, outre son délire mégalomaniaque, c'est que la voix du Saint-Père porte. Et elle porte pour plusieurs raisons. 1. Parce que Léon est américain. 2. Parce que 70% des Américains se disent chrétiens. 3. Parce que les catholiques sont la première communauté chrétienne aux États-Unis et représentent 21% de la population. 4. Parce que Trump, pour faire avaler l'intervention en Iran à son opinion publique, l'a habillé de motivations religieuses et qu'il ne peut dès lors souffrir d'être contredit sur ce terrain. Voilà pourquoi, tel Guillaume de Nogaret, il a osé sermonner le Saint-Père.
Comparaison audacieuse. Pour qui se prend Donald Trump ?
Eh bien, il se prend très sérieusement, à mon avis, pour un monarque de droit divin. Il est l'envoyé du ciel sur terre pour le salut de l'Amérique, nouveau peuple élu en une nouvelle terre promise. Il l'avait d'ailleurs annoncé lors de sa très monarchique cérémonie d'investiture. Lors de l'attentat qu'il a subi, il a été sauvé par Dieu pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Voyez comme toute sa communication est désormais teintée de justifications religieuses, depuis ses généraux qui parlent de guerre spirituelle en Iran, jusqu'à ses scènes surréalistes de bénédiction par des pasteurs évangéliques, accompagnés de prêches le comparant au Christ. C'est dans le ciel et plus seulement dans les foules que Trump, deuxième version, cherche son principe de légitimité. La conséquence institutionnelle, c'est que rien ne saurait désormais limiter son pouvoir. Pas de limite institutionnelle. On sait combien Trump prétend renforcer le pouvoir exécutif au détriment de tous les contre-pouvoirs et pris comme un crime de lèse-majesté l'opposition de la Cour suprême sur ses droits de douane. Pas de limite formelle. Trump a fait voler en éclats tous les usages du langage politique et diplomatique. Pas même de limite dans le temps. À plusieurs reprises, il a sous-entendu qu'il aimerait être candidat en 2028 alors que la Constitution le lui interdit. De la monarchie absolue, on retrouve le même système de cours et la même logique de clientèle. Son unique limite, il l'a dit, c'est sa propre morale. Bref, c'est un mode de gouvernance inconnu au XXIe siècle que Trump est en train d'inventer. Le politologue britannique Philip Bland nous l'avait annoncé dans un entretien à L'Incorrect. À l'avenir, l'autoritarisme populaire remplacera la démocratie comme mode de gouvernement. La tâche principale consistera à le reconnaître et à redécouvrir les notions anciennes des devoirs du prince, car nous serons gouvernés par de nouveaux Césars. Nous y voilà.
Ces prétentions politico-religieuses de Trump ne pouvaient pas forcément nécessairement plaire au pape.
Effectivement, le choc est frontal et nous voilà replongés en plein Moyen-Âge dans ces longues querelles qui opposèrent les papes aux rois et empereurs d'alors. À quel point le prince peut-il se faire l'interprète de Dieu et à quel point le pape peut-il s'immiscer sur le terrain politique ? Sur ce point, c'est la réponse du vice-président J.D. Vance, catholique de son état, qui est la plus révélatrice. Sa première réaction fut de signifier qu'il vaudrait mieux que le Vatican s'en tienne aux questions morales et laisse le président des États-Unis se charger de définir la politique publique américaine. Vance niait donc au pape le droit de s'exprimer sur des matières temporelles. Le vice-président post-libéral se cachait ici derrière un argumentaire libéral éculé que ne peut évidemment pas soutenir un catholique. La foi appelle bien sûr des conséquences dans la cité, c'est ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Se rendant sans doute compte de sa méprise, Vance changeait hier son fusil d'épaule et reprochait plutôt au pacifisme papal de méconnaître la théorie de la guerre juste. Certes, le pape pouvait donc s'exprimer sur des matières temporelles, mais il devait mieux s'assurer que son discours est ancré dans la vérité théologique. Citation, « Tout comme il est important que le vice-président des États-Unis fasse preuve de prudence lorsqu'il aborde des questions de politique publique, il est extrêmement important que le pape fasse preuve de prudence lorsqu'il aborde des questions de théologie. » Nous avons donc un homme politique catholique, converti depuis quelques années, qui sous-entend publiquement que le pape est théologiquement dans l'erreur. Serait-il devenu aussi fou allié que son patron ?
Ce Il me rappelle une citation de Guillaume Cuchet dans un entretien donné à la Correct sur la prétention théologique de certains. Mais alors, comment réagissent les soutiens catholiques de Donald Trump ?
Eh bien, un tournant est sûrement en train de s'opérer sous nos yeux. Toutes les composantes de la droite Trump ayant permis sa réélection en 2024 partent en lambeaux. Après la volte-face d'Elon Musk, après la fracturation des MAGAs, c'est maintenant le soutien des intellectuels post-libéraux, majoritairement catholiques, qui est en jeu. Le juriste Adrian Vermeul, le philosophe Edward Fieser, les essayistes Rod Dreher et Sora Bamari ont déjà pris leur distance d'avec Trump. Fieser a été, on ne peut plus clair, le pape est le père spirituel de tous les catholiques. Dans une famille, même quand on n'est pas d'accord avec son père, on se mobilise pour le défendre lorsqu'il est attaqué par un étranger. Vermeul citait pour sa part le français Louis Veuillot « Rien dans nos principes ne nous engage à ménager les désordres des rois ». Quant à Rod Dreher, il juge que Trump est trop insignifiant pour être le véritable antéchrist, mais il incarne l'esprit de l'antéchrist. De là deux conséquences. La première, c'est l'avenir politique de J.D. Vance. En prenant ainsi la défense de Trump, n'est-il pas en train de perdre ses soutiens naturels et d'user tout son crédit intellectuel et politique ? Plus que jamais, sa candidature en 2028 est en danger. L'autre conséquence sera dans les urnes, à un peu plus de 6 mois des midterms. Depuis 2008, les catholiques sont le groupe religieux ayant le plus basculé vers le parti républicain. 58% d'entre eux avaient voté pour Trump en 2024, soit 10 points de plus qu'en 2020, lorsqu'ils avaient préféré Joe Biden. C'est donc un soutien décisif que le président américain est peut-être en train de s'aliéner. Depuis lundi, un vieil adage français circule sur les internets américains « qui mange du pape en meurt ». Nul doute que si Vance souhaite un grand avenir politique, il devra faire étape à Canossa.
Merci Rémi Carlu. Jérôme Ferenbach, vous, quel regard portez-vous sur cette séquence cette guerre déclenchée par Donald Trump et ses propos plus que douteux, en tout cas très désagréables et vulgaires, à l'endroit de Léon XIV.
Eh bien, je pense que, évidemment, Léon XIV est parfaitement légitime à s'exprimer sur le terrain qu'il a choisi. Il y a une chose qui me... Un texte, vous voyez, dans la liturgie des derniers jours, qui m'a beaucoup frappé, peu avant Pâques, c'était celui de la résurrection de Lazare, où Marthe nous... Enfin, répondant à l'apostrophe de Jésus, crois-tu cela ? Elle répond bon, plusieurs choses, et elle répond notamment oui, tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient en ce monde. Et en fait, elle nous rappelle bien qu'ainsi que la religion chrétienne n'est pas éthérée, n'est pas, mais qu'elle est bien enracinée, qu'elle est faite pour se déployer, pour se glisser, pour, j'allais dire, inonder le monde, en fait. Et je trouve cette parole extrêmement forte, extrêmement belle, c'est dit beaucoup plus joliment que ce que je viens de dire, c'est beaucoup plus persuasif, mais ceci pour nous rappeler que par vocation, malgré le denier de César, malgré la séparation entre le temporel et le spirituel, eh bien, l'Église ne peut pas être absente, et bien au contraire, elle doit être présente, au moins, si ce n'est en pouvoir, certainement pas en pouvoir, mais en contrepoids puissant par rapport au pouvoir des gens de ce monde, avec son magistère, avec son indépendance d'expression, avec ses moyens d'expression qui lui sont propres et le style qui lui est propre. Donc bravo à Léon XIV.
Ce qui n'est pas sans lien avec la deuxième partie et peut-être la partie centrale de votre livre, puisque le titre, je le rappelle, « La République épuisée, le retour nécessaire des vertus chrétiennes », vous dites que donc, le recul de la morale chrétienne, donc de la chrétienté, a privé la République de son socle culturel et moral. Alors expliquez-nous ce lien et surtout pourquoi.
En fait, le lien, il apparaît, enfin, en tout cas les prémices de ce lien, le corpus, on va dire, il se développe ce qui va donner lieu à l'idée républicaine, ça commence à se développer à partir du XVIIe siècle, au moment de ce que Paul Hazard appelait la crise de la conscience européenne. Et en fait, l'inspiration de ces philosophes, l'imprégnation dès le XVIIe siècle, et bien avant les philosophes du XVIIIe siècle, l'inspiration est, pour une très grande partie d'entre eux, très largement chrétienne. L'idée de liberté, l'idée d'égalité et l'idée de fraternité sont ô combien puissamment chrétiennes d'inspiration. Et donc je trouve tout à fait paradoxal cette forme de reniement, de déni en tout cas, voire de reniement, par rapport à ces origines chrétiennes de notre culture, en fait, et de notre approche de l'autre, et de notre approche de la vie en société.
Alors, pour certains vous répondront, évidemment, la République n'a pas besoin de christianisme, dégagez avec vos curés, on en a déjà suffisamment payé avant 1905, elle a ses propres principes, mais en quoi c'est les propres principes, justement, concrètement, pourquoi est-ce que la République a pu transformer, alors peut-être même dévoyer aujourd'hui, ne suffit pas elle-même ?
Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question, mais j'ai l'impression que les différents principes ont perdu tous de leur force, commençant par la fraternité, qui s'est trouvée remplacée par la notion de solidarité. C'est assez étonnant. Et au point où la fraternité, qui implique une part de relation humaine directe, d'humanité au sens le plus archaïque du terme, le plus simple, le plus primitif du terme, s'est effacé et complètement effacé devant des mécanismes de solidarité extrêmement complexes derrière lesquels on se réfugie et qui chassent finalement toute humanité, tout esprit de charité, j'ose le mot, de fraternité et de relations vraiment personnelles que suppose la fraternité, qui suppose de sortir de soi-même et d'aller vers celui qu'il est assez difficile d'aborder. Premier point, l'égalité, je crois que je l'ai un peu évoqué aussi tout à l'heure, on a été conquis et essentiellement depuis 1945 et plus encore peut-être depuis 1980 par une idée des idées d'ascenseur social qui me paraissent pas très bonnes et une appréciation de l'égalité qui à l'origine de la République était plutôt une égalité de conditions juridiques qui se transforme en égalité sociale, égalité sociale imposée en fait, hein. Je le dirais presque infligée, qui n'est pas bonne parce qu'elle tue en plus le ressort de la fraternité. Et dernier point sur la liberté, alors c'est peut-être heureusement l'élément qui est le moins altéré dans cette devise, en tout cas dans sa réalité. Si on appelle liberté, on ne pourrait pas s'exprimer de façon si détendue à Radio Courtoisie, il faut quand même se rappeler ceci. Ce qu'on a vu, ce que je dis très banal, et ce qu'on a vu depuis 2020, en revanche, la facilité avec laquelle, même pour d'excellentes raisons, ou des raisons apparemment excellentes, des mécanismes illibéraux ou liberticides plutôt sont mis en place très très facilement. Alors efficacement pour les pouvoirs publics, finalement, tant mieux lorsque l'urgence est là, mais de manière dans un silence, une absence de réaction de la population qui est tout à fait stupéfiante et qui est pour le coup un peu inquiétante.
Rémi Carlu.
Oui, je reviens sur la question du rapport entre la République et son socle religieux, son absence de socle religieux. Vous avez des mots très forts quand même, vous expliquez que le piège du rejet du religieux risque de se refermer à son tour sur la République. Vous dites qu'il provoque un délit anthropologique, parce que je trouve que c'est une très très belle formule. Évidemment, pour une raison simple, c'est que à ce passé religieux, à ce socle religieux, la République préfère mettre en avant la laïcité, dont vous dites qu'elle est sa colonne vertébrale en même temps que son piège, si j'ai bien noté. D'où ma question, à partir de quand la laïcité est-elle entrée dans la caractérisation de la République? Et dans quelle mesure la laïcité telle qu'appliquée aujourd'hui vous semble-t-elle problématique?
C'est une question évidemment très, très 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 étendue. En fait, la laïcité a commencé à entrer dans les constitutions postérieures à 1945 pour s'imposer de façon très forte dans le préambule de la Constitution de 1958. Et celui-ci et l'interprétation qui en est faite, a profondément été transformée depuis 1989 et l'affaire des foulards de Creil, ou d'une laïcité de coexistence, on va dire plus ou moins pacifique depuis, on va dire au moins les années 20. On est passé à une laïcité beaucoup plus coercitive pour empêcher des débordements, empêcher notamment l'expansion de manifestations culturelles et religieuses très visibles liées à l'islam ou à l'islamisme. Et du coup, pour faire bonne mesure, bien évidemment, pour ne pas stigmatiser telle ou telle religion ou confession, on appliquait des règles, à mon sens, aussi coercitives ou tendanciellement coercitives pour l'ensemble des religions et des confessions. Là où j'ai évoqué le mot j'ai emprunté le mot fort peut-être des liens anthropologiques, c'est que c'est au moins pour deux raisons. La première, c'est que quels que soient finalement les appétits, les références culturelles et les adhérences religieuses ou leur absence des Français, on constate, et les enquêtes le prouvent, que la population, qu'on le veuille ou non, une partie significative a une aspiration à une forme de transcendance et même parfois une aspiration, une forme d'irrationalité, est attirée par le monde invisible. Alors je vais prendre une comparaison, un chiffre notamment très éloigné des relations, des liens religieux. Je crois qu'il y a 40% des Français qui croient aux esprits. Des sondages récents, moi je trouve ça assez étonnant, mais donc, que ça nous paraisse rationnel bien ou mal, c'est pas tellement la question. Enfin, ça montre qu'en tout cas, il y a un substrat dans la psychologie de l'homme qui, en tout cas, pour une partie significative de nos contemporains, concitoyens, recherchent quelque chose qui dans le monde invisible. Plus important, en fait, en tout cas, à mes yeux, puisque plus proche de mon appartenance, on va dire, c'est le fait que par construction, une religion comme le christianisme ne peut pas se taire, et que l'idée de la réserver, de la cantonner à un espace privé est un non-sens. l'aventure du christianisme à partir des 12 apôtres, c'est bien la force, la vitalité de disciples qui n'ont pas su, qui n'ont pas pu se réfréner tellement ils portaient un mystère, un trésor inouï, il fallait le partager. Et donc c'est inhérent à la religion chrétienne que de vouloir partager. C'est pas forcément une volonté d'expansionnisme au détriment de l'autre, mais c'est vraiment une volonté quasiment compulsive de partager la révélation, de partager le trésor que ça représente. Et au contraire, je trouve que le silence sur ces sujets-là, le silence confine à une forme d'indifférence ou de mépris, ça ne refuser de partager, que ce soit par indiscrétion mal placée ou par peur, de refuser de partager ce trésor, y compris le trésor de fraternité qu'on peut vivre dans la vie en communauté religieuse, je trouve que c'est extrêmement, extrêmement regrettable, extrêmement dommageable.
Il y a un autre passage qui est très, très intéressant, c'est que vous vous rappelez que la République en France est née dans les conflits, alors les guerres de coalition européenne de 92, la guerre de 71, les guerres d'Indochine, d'Algérie, et que je cite, la République, pour beaucoup, a eu pour traduction la nation en danger, la patrie en armes, la levée en masse, la conscription militaire, un esprit de défense galvanisateur. Et là, ce que vous observez dans les symptômes, en tout cas dans les conséquences de cette fatigue de la République et peut-être de sa méfiance vis-à-vis de beaucoup de nos concitoyens, ou même pour certains de son rejet, c'est que la République est désarmée et donc elle ne protège plus, vous dites, économiquement, elle ne protège plus militairement, elle ne protège plus non plus la délinquance. Voilà, quel est l'état des lieux aujourd'hui de cette République désarmée et pourquoi nous sommes arrivés là surtout ?
J'avoue que j'ai, c'est ce que j'essaie d'explorer dans le livre. Je pense qu'on a vraiment du mal à répondre de façon très rapide à cette question immense, encore plus grande peut-être que celle sur la laïcité, mais ce désarmement progressif. Il y a vraiment, je me garderai.
Tout
si vous voulez.
Désarmé partout, hein,
oui, alors on est vraiment désarmé partout.
On est à poil.
Et c'est un point quand même sur lequel je voudrais, pour ceux qui s'aventureront à lire ce livre, faire une petite alerte quand même. Je ne veux surtout pas, avec un livre semblable, me placer sur un contempteur du genre humain et en redresseur de tort. Donc, j'appartiens à une certaine génération et comme beaucoup de mes concitoyens et de mes contemporains, on a certainement été d'une naïveté complètement confondante pour toutes sortes de raisons et on nous a inoculé cette idée dans les années 80-90 qu'on allait vivre, vous faisiez référence à Fukuyama il y a quelques instants, dans un monde sans danger, dans un climat de paix perpétuelle, avec une vertu de la mondialisation qui était absolument sans limite. Et donc c'est devenu une doxa extrêmement envahissante, et avec une absence complète de lucidité de la part de gens de ma génération, dont je fais d'ailleurs certainement partie, donc je me garderai, si vous voulez, de blâmer de manière indifférenciée et de manière sentencieuse tel ou tel. Je pense que le manque de lucidité est une vraie faiblesse et a été extrêmement dommageable. Donc les manifestations, elles sont multiples. Je pense qu'un des tournants, c'est la suppression du service militaire. Bon, ça, je pense que c'est un des éléments.
La suspension, pardon.
Le service militaire, je pense que c'est... Alors moi, j'ai eu la chance, je demande de pouvoir le faire. Je fais partie de la dernière promotion, je crois. Mais c'est un élément, je pense, un tournant extrêmement, extrêmement grave. Mais voilà, il y a une espèce de candeur sociale. Et ceci doit nous alerter constamment, je pense. C'est une de mes idées aussi sur le débat actuellement sur la fin de vie, sur les rideaux de fumée ou les impressions de consensus social autour d'une idée vaste qui paraît séduisante, englobante et archi-consensuelle. Je pense qu'il faut faire extrêmement attention à pouvoir exercer ce recul.
Rémi Carlu.
J'avais une question.
J'en ai une, parce que vous parlez de la fin de vie, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est de la partie d'après justement, c'est que si la République n'arrive plus à nous défendre, elle va nous aider à bien mourir. Mais encore une fois, tout le sujet sur la fin de vie, on voit évidemment tout le vocabulaire, la sémantique, on essaie d'enrober le principe de bien mourir, c'est quand même assez angoissant, mais quelle est la part de responsabilité de la République là-dedans ? Quel est le lien entre la République et le bien mourir ?
La République est probablement de ce point de vue-là à l'image de la société, c'est-à-dire avec une espèce de fadeur et de capitulation qu'on retrouve certainement très largement diffusée, et peut-être chez votre serviteur aussi ce soir. Donc c'est pas très facile à expliquer. Sur la fin de vie, je vous avouerai, c'est une question que vous m'avez pas posée, mais je m'en empare, c'est qu'au fond, pourquoi ai-je écrit ce livre à présent ? Je l'ai écrit très rapidement. très, très rapidement, dans une impulsion très vive.
C'était ma dernière question,
Pardon. Il y a quelques années, je n'aurais pas écrit, parce que j'aurais jugé déraisonnable, en fait, d'un tel livre, parce que je suis, en dépit des apparences, je pense qu'il faut faire l'effort d'avoir un optimisme de volonté, et qu'il y a beaucoup d'éléments qui doivent susciter la confiance encore dans la société française. Je le pense très, très sincèrement, et je le rappelle très brièvement, trop brièvement dans le livre.
Mais
je pense à l'inverse que ce que nous avons vu depuis 2020, comme errement, comme désordre, que ce soit au niveau mondial ou dans notre société, comme perte de repères je ne sais pas si c'est une forme de déglaciation, mais quelque chose des choses très très étranges et très amples se sont produites. Et pour moi, vraiment, l'opiniâtreté, pour ne pas dire l'acharnement thérapeutique sur cette loi, sur cette idée de bien mourir et des moyens d'y parvenir et de le diffuser dans la société, est un tournant absolument, absolument considérable qu'on ne peut pas sous-estimer. En tout cas, pour ma part, je veux dire, mon âme et conscience, c'est un des éléments absolument majeurs qui traduit énormément de choses sur l'état de la République et l'état de la société en général.
Mais c'est-à-dire que ce que vous dites là, c'est que l'une des causes de cette fatigue de la République, de cet épuisement de la République, il y a une crise anthropologique.
Oui, alors après une question, pardonnez-moi de renvoyer une image très bête de poulet d'œuf, en fait, dans quel sens le lien de causalité s'exerce-t-il? C'est pas très simple, c'est une espèce de spirale. Et en même temps, j'estime, c'est pas le propos du livre, malheureusement peut-être, mais j'estime qu'on a vraiment beaucoup de ressorts possibles pour s'en sortir maintenant. Et je me félicite, moi, du nombre de sorties, d'analyses, mais même de rapports, à vrai dire, de la part de think tank, comme vous disiez tout à l'heure, au cours des dernières années, qui nous appelle vraiment à un sursaut de façon documentée, rationnelle, et sans non plus catastrophisme absolu. Je pense qu'on risque effectivement, si les tendances se prolongent, d'avoir un atterrissage dans un champ de betteraves, notre appareil qui sera un peu difficile. Je ne prédis pas de catastrophe non plus, parce que je pense que ça ne sert absolument à rien. Et je pense qu'on a la nécessité absolue d'un rebond et d'un ressaisissement au cours des 5, 6, 10 prochaines années. Ce que d'ailleurs un institut aussi centriste et modéré, l'Institut Montaigne, montre bien autour de l'horizon 2040 sur toute une foule de sujets.
Rémi Carré.
Justement, passons aux solutions, oui. Puisque vous en posez plusieurs dans le livre. Alors la plus spectaculaire, puisqu'elle est en couverture, c'est le retour des vertus chrétiennes. Comment concrètement ce retour des vertus chrétiennes peut-il se déployer? Est-ce que vous attendez à ce que les élites républicaines ouvrent les yeux, renouent avec leur passé et décident de travailler main dans la main avec des vertus qui ont pu être les nôtres? Ou est-ce qu'à l'inverse, vous dites, non, en fait, c'est plutôt les catholiques aujourd'hui qui doivent peut-être un peu se décomplexer, essayer d'irradier la cité et donc parier aussi sur ce retour de la foi qui a l'air de se déployer en France aujourd'hui. Comment ces vertus chrétiennes peuvent-elles revenir?
Je parierais sur la seconde branche de votre réponse, c'est-à-dire la capacité de mobilisation et de prise de conscience et de sursaut du peuple chrétien en France. Et quant au pouvoir public, je pense qu'il faut en attendre une vision plus modérée et tout simplement plus humaine des spécificités de l'enseignement catholique. On assiste depuis quelques années, c'est d'ailleurs ce ne sont même pas mes propos, ce sont ceux du pape Léon XIV dont on parlait tout à l'heure, à une forme de resserrement ou de mise en cause du caractère propre de l'enseignement catholique qui est à mon sens extrêmement nocif. Les vertus, si je veux revenir dessus un petit instant, je ne parle pas de vertus théologales, parce que ça pour le coup, il me semble que ça fait vraiment partie de la vie spirituelle de chacun et c'est un peu compliqué de l'évoquer à l'antenne. Sur les autres vertus, moi j'aime beaucoup les vertus cardinales, les fameuses quatre vertus cardinales, parce que ce sont à mon avis des vertus de responsable et de responsabilité politique, économique ou autre, mais c'est des vertus qui devraient habiter tous ceux qui exercent des responsabilités dans la société. Et ensuite, il y a toute une série d'autres vertus qui me paraissent parfaitement compatibles avec ce que la République, avec les valeurs de la République. Et donc notamment la fraternité en fait partie, la loyauté, une forme de patriotisme aussi qui doit être une première traduction d'un sentiment de gratitude par rapport à ce qu'on a reçu. Moi, c'est une chose aussi dont je suis dans ce livre d'être porteur, c'est un sentiment de gratitude par rapport à l'héritage considérable qu'on a reçu de valeurs, de force, de richesse et d'identité nationale. Et je pense que ce très très fécond héritage doit être reconnu aussi de façon beaucoup plus claire, y compris dans le discours politique. On ne peut pas, dans la relation à l'histoire, la manière dont on décrit l'histoire, on ne peut pas s'arrêter au 12 juillet 1906 ou au programme du CNR en 1943. C'est un déni qui altère énormément notre capacité à vivre en commun, je pense.
Rémi Carlu.
Oui, vous parlez de gratitude, vous parlez aussi dans votre livre de gratuité. Et j'ai trouvé ce passage vraiment passionnant et assez neuf, assez original, on n'en parle jamais. Vous expliquez notamment qu'il faudrait revenir à une éthique du don et de la gratuité plutôt que... au paradigme solidariste, notamment. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ?
Alors, c'est un point où, où la démonstration, il n'y a pas forcément des démonstrations mathématiques, mais quand on regarde très rapidement les ordres de grandeur de la dette publique, de la capacité ou pas à prélever d'autres impôts, d'autres ressources sur les Français, sauf à exercer une véritable prédation sur le patrimoine, ce qui, j'espère, n'est dans les idées de personne, je pense qu'on ne peut arriver qu'à la conclusion qu'il faut restaurer une part de gratuité. Je vous donne un petit exemple très, très simple. On dit qu'une année de fin de vie, c'est à peu près en soins constants, pas forcément en soins palliatifs, en tout cas pour une personne en fin de vie, en moyenne, paraît-il, c'est, si elle doit être correctement assistée, je crois que c'est à peu près 4 personnes qui en permanence se relaient quand elle est dans une situation vraiment de grande dépendance. Et je crois que c'est chiffré à 110 000 euros comme coût annuel. Donc c'est un coût extrêmement élevé. On pourrait très bien imaginer que des mécanismes fiscaux moins coûteux que ces 110 000 euros de récompense ensuite après dans les successions, c'est des dispositifs qui peuvent être imaginés fiscalement et dans le droit civil, je présume, pour avantager ou récompenser des descendants, des personnes de l'entourage qui auraient été particulièrement investis, auraient permis à la collectivité nationale d'éviter ces 110 000 euros de coûts par une présence affectueuse constante auprès de la personne en fin de vie. Donc c'est un petit exemple parmi d'autres, mais je pense qu'il y a un terrain extrêmement important de générosité et de dons gratuits. Ça fait ringard, ça fait passéiste, bien sûr. C'est moins propre que les solidarités qui passent par le truchement d'organisations très huilées, qui fonctionnent d'ailleurs plutôt bien. Et pourtant, je pense que c'est par là qu'il faut passer. Je pense qu'on ne peut pas en faire l'économie. Je pense que même mathématiquement, on ne peut pas en faire l'économie.
Rémi Vous montrez d'ailleurs aussi dans les associations à quel point les associations se sont professionnalisées et où effectivement ce paradigme a disparu. Il y a aussi une partie sur des propositions institutionnelles. Quels sont les changements institutionnels qu'on pourrait opérer pour revitaliser cette République ? Et petite question pour boucler la boucle, vous aviez commencé en expliquant qu'il n'y avait pas disons que la République et la démocratie n'étaient pas strictement équitables. Est-ce que la monarchie constitutionnelle pourrait être une possibilité ?
Alors, selon moi, à titre personnel, je ne l'ai jamais exclu parce que je trouve que c'est des modèles qui sont en fait assez beaux parce qu'ils permettent de concilier à la fois une forme d'agilité démocratique et une forme de permanence au fil des siècles dont on a, je pense, profondément besoin, surtout dans des périodes sans repères extrêmement tourmentées comme celles qu'on peut vivre. Maintenant, je pense que pour les Français, c'est complètement inacceptable, impensable, et qu'on ne peut pas non plus remonter le courant à ce point pagayant aussi énergiquement contre le flot de l'histoire.
On a beaucoup de pagayes.
Ouais. Je ne sais plus ce que je voulais dire, pardon, je me suis interrompu dans ma réponse.
C'est sur vos propositions,
oui, sur les propositions.
Notamment sur la personnalisation du régime.
Vous êtes à mon avis, alors ça n'engage à dire que moi, c'est le propre d'un essai, justement, c'est qu'on tente, pas forcément de démontrer, mais en tout cas, on souhaite partager les convictions. Je pense que la présidence socialisation du régime n'a pas consécutive, surtout avec de l'élection suffrage universel direct, n'a pas grandi la fonction présidentielle, que les 20 dernières années l'ont plutôt altéré pour énormément de raisons, y compris techniques ou de méthodes de communication que chacun connaît. Et je pense que le chef de l'État doit être beaucoup plus dans une position, en effet, pas forcément d'arbitre, mais en tout cas de superviseur et de garant d'une continuité, et beaucoup moins dans une forme d'interventionnisme permanent qui n'est pas du tout propre au président de la République actuelle, qui est une constante en France depuis 1958, je pense, au moins depuis 1965, en tout cas qui n'est pas vraiment porté chance au président de la République successif.
Merci beaucoup Jérôme Fehrenbach. Je rappelle votre ouvrage, La République épuisée, les retours nécessaires aux vertus chrétiennes. Donc vous l'aurez compris, chers auditeurs, c'est un livre brillant, avec des approches originales et qu'on ne voit pas beaucoup, surtout quand on parle de ces sujets-là. Donc on le vous conseille évidemment vivement. Et merci.
Je me permets de te couper, Arthur. Il y a aussi, monsieur Fehrenbach a signé, juste avant, une excellente biographie que je dois mentionner, de Monseigneur Ketteler, le grand évêque allemand, précurseur de la doctrine sociale de l'Église, grand opposant à Bismarck, dont on parlait au début d'émission. Et le livre, donc, vraiment magnifique et merveilleux, que je vous recommande.
Vous l'aurez compris, chers auditeurs, pour le prix de 2 livres, vous aurez 2 livres. Voilà. On se retrouve dans quelques instants, on va parler culture et art. We'll be right back.
Restons courtois. Arthur de Vatrigan.
Vous êtes toujours dans Restons courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie. Chaque jour, en direct de 17h30 à 19h30, il est 18h35, donc c'est l'heure de notre deuxième invité, Marguerite Frison-Roche. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Alors, vous êtes diplômée de Sciences Po, dommage, de la Sorbonne, de l'Accademia Teatro alla Scala. Vous avez travaillé dans plusieurs institutions culturelles européennes avant de rejoindre le secteur privé. Et aujourd'hui, vous vous consacrez au rayonnement culturel français et à l'accompagnement de la création, puisque vous lancez Disruptif, un laboratoire d'idées, donc un think tank en anglais, consacré aux politiques culturelles. Donc ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est qu'elle ne consiste pas seulement à défendre la culture de manière un peu vague, mais de poser un diagnostic un peu plus offensif. Budget, absence de doctrine, déconnexion croissante, tout ça, bref. L'érosion du rayonnement intellectuel, la banalisation des lieux, l'effacement du beau, et vous voulez produire donc une doctrine où irriguer les territoires, réaffirmer l'esthétique et rouvrir l'imaginaire, tout un programme indispensable. Mais avant cela, nous avons une tradition dans cette émission, c'est celle de passer nos invités à la question.
Ne perdons pas notre temps.
Ils peuvent me tuer, je parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
C'est vous. Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler.
Marguerite Frison-Roche, quel est le plus grand crime commis contre le beau ?
Je pense que le plus grand crime commis contre le beau, c'est de placer deux valeurs au-dessus qui sont le confort et l'utilitarisme. Et je pense qu'on le voit dans les façades des bâtiments, dans notre manière de s'habiller, dans plein de choses qui ont perdu en esthétique pour le souci du confort. Je visais personne autour du plateau.
S'il ne fallait garder qu'un seul livre, et vous n'avez pas le droit de dire la Bible.
Je pense que ce serait Le Seigneur des Anneaux, parce que je trouve ça très complet et une très grande réflexion sur le bien et le mal sans être manichéen, et aussi une très grande réflexion sur le pouvoir.
Quelle est la plus belle scène d'ouverture au cinéma ?
Pour moi, celle qui m'émeut le plus, c'est celle de Gladiator, que j'ai vue depuis que je suis petite, des centaines de fois, et c'est cette bataille contre les Romains, les Romains et les Germains, que je trouve être un chef-d'œuvre en soi dans le chef-d'œuvre de Gladiator.
Vous aimez qu'on lance des têtes ?
Ouais. Et qu'elles arrivent, c'est ça, à cheval, sans décor, sans tête, à cheval.
Quelle est la scène de fin la plus nulle ?
Je pense que dans les films que j'ai vus récemment, c'est le dernier de James Bond, No Time to Die, il me semble, et j'ai trouvé ça un supplice. C'est vraiment très gênant, la mort de James Bond, c'est vraiment très mauvais.
On n'aime pas ça.
Non, c'est pas juste ça, c'est que c'est vraiment gnangnang, quoi.
Quelle est la musique qui transformerait n'importe quel dictateur en pénitent ?
Je pense que ce serait le Requiem de Mozart, et plus particulièrement le Lacrimosa, qui est le passage qui rendrait même pénitent quelqu'un qui n'a pas fait grand-chose de mal dans sa vie, je pense.
Vous renvoyez ça à l'Union Européenne. Quel est le pire ministre de la culture de l'univers ?
Je ne sais pas si c'est le pire, mais c'est en tout cas le plus redoutable, et je ne vais vraiment pas être original, mais je pense que c'est Jack Lang, parce qu'il a continué à être ministre même quand il n'était plus, et ça fait 30 ans qu'il règne sur la rue de Valois, alors même qu'il est parti.
Là, je crois que c'est fini. Je crois que là, il ne règne plus.
Ah oui,
depuis quelques jours, il ne règne plus, c'est terminé.
Il peut même pas doubler les fils au cinéma. Donc
il s'est fait refouler d'une séance de cinéma, c'est bien la preuve qu'il n'a plus de pouvoir. Pour nos éditeurs qui ne le savent pas, il s'est pointé au MK2 pour aller voir un film, et puis, en doublant toute la file. Puis forcément, le monsieur à la queue lui dit « Qu'est-ce que vous foutez là ? Vous faites la queue ?» Il dit « Comment ? Je suis Jack Lang, pourquoi je perds une place ?» Voilà l'histoire. Quel est le plus grand dramaturge depuis la préhistoire ?
Je vais y répondre en vraie française, mais pour moi, c'est Molière.
Qu'est-ce que l'art français a qu'aucun autre pays n'aura ?
Je pense que c'est un mélange d'élégance et d'irrévérence qui nous caractérise.
Votre dernière claque littéraire ?
C'était Le désert des Tartares. Donc c'est pas une lecture tout à fait récente, mais je trouve que c'est une très belle réflexion sur le sens qu'on peut donner à sa vie, voire ne pas en donner du tout. Donc ça fait réfléchir.
La comédie française, c'est ?
C'est l'une des meilleures intuitions en termes de politique culturelle de Louis XIV.
Bergman ou Fellini ?
Alors, je trouve les deux particulièrement chiants, mais il s'avère que j'ai surtout vu des films de Bergman, parce que pendant le Covid, je me suis piqué d'apprendre le suédois. Donc, comme il n'y a pas beaucoup de cinéastes suédois, j'ai dû regarder pas mal de films de Bergman.
Delon ou Belmondo ?
Delon, parce que c'est clairement le plus beau des deux.
C'est bien une fille, ça. Mm-hmm. Sardou ou Renaud ?
J'aime les deux, mais je vais répondre Renaud, juste pour déranger un peu ici.
Bon, pas du tout. Balzac ou Flaubert, pour terminer ?
Balzac.
Quoi ?
Parce que le colonel Chabert m'avait ému.
Bravo ! Merci, Marguerite. Alors, passons, entrons dans le vif du sujet maintenant, donc Disruptif. C'est très macroniste.
Non, c'est un mot du XVIe siècle. J'ai vérifié avec l'Académie française. Donc ça vient du latin et ça a été inventé au XVIe siècle. C'est juste que ça a été remis au goût du jour par les macronistes, mais bref, ils n'ont pas la possession du mot.
Évidemment, ils n'ont pas le monopole. Alors, pourquoi lancer un laboratoire d'idées sur les politiques culturelles aujourd'hui? Comment est venue cette idée ou cette nécessité?
Cette nécessité, je pense que c'est une question qui me travaille depuis longtemps, parce que j'ai commencé ma jeune carrière, dans des institutions culturelles, et notamment à l'opéra, et je vois que il n'y a pas vraiment de doctrine culturelle. On vit sur, en tout cas en France, sur les acquis ou la philosophie de Jack Lang, qui se définit par deux points, qui est de dire il n'y a pas de hiérarchie dans l'art, tout se vaut. Et l'autre pilier de sa philosophie, c'est de dire que un État qui serait ambitieux en politique culturelle serait forcément un État extrêmement dépensier, c'est-à-dire qu'on finance tout, la création, le patrimoine, tout. Et si on ne dépense pas, si on ne fait pas d'échecs, ça veut dire qu'on n'est pas ambitieux. Moi, je pense qu'il a tort sur ces deux points. Et qu'il est grand temps de reproposer autre chose, tant sur la gestion du ministère de la Culture et de la culture en France, et à la fois sur sur un retour à une certaine forme de hiérarchie dans l'art, parce que je ne pense pas que tout se vaille.
Alors comment très concrètement ça fonctionne un laboratoire d'idées? C'est-à-dire qu'on va rentrer dans le détail de vos constats, de ce que vous pensez qu'il faut réformer, changer ou créer. Mais concrètement, voilà, quand on pense laboratoire d'idées, on pense évidemment, pour la veille d'une présidentielle, ça s'excite, on pompe plein de programmes et on essaie de les vendre au maximum à un candidat et qui récupère les idées. Là, d'un point de vue culturel, c'est une des échéances politiques, qu'est-ce qui se passe en dehors d'une élection? Comment vous voyez le fonctionnement?
Pour moi, le fonctionnement d'un laboratoire d'idées, alors je suis ravie qu'on reprenne ce terme, parce que moi je dis think tank,
mais ici, on paye à chaque fois 2 euros à la fin, j'ai plus d'argent.
D'accord. Donc, non, mais moi je suis pour l'utilisation de ce terme, c'est juste que quand on dit laboratoire d'idées, les gens pensent que c'est un truc différent d'un think tank, mais c'est exactement la même chose. Et le but est d'apporter vraiment nourriture intellectuelle, à la fois de la doctrine et à la fois des chiffres précis. Donc je pense qu'il y a une partie observation, observatoire, et une partie réflexion pour guider les politiques qui, en général, n'ont pas le temps d'aller peut-être aussi loin dans la réflexion et dans l'analyse de politiques culturelles. Et plus on fait le travail en amont pour les politiques, plus on fait le travail en amont aussi pour l'opinion publique, pour le renseigner, pour faire connaître en fait l'intérêt d'une politique culturelle, par exemple, parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'intéressent à ce sujet, plus on a de chances que ces idées passent. Et comme moi, ça m'intéresse de redonner une doctrine culturelle à la France, j'ai décidé de créer le meilleur véhicule pour ça, à savoir un laboratoire d'idées.
Alors de qui compose ce think tank, ce
laboratoire d'idées.
Laboratoire d'idées, pardon.
Alors, j'ai beaucoup de gens qui travaillent avec moi, mais qui pour l'instant ne s'affichent pas. Mais les trois personnes pour l'instant qui composent mon comité scientifique, c'est un ancien ministre, Renaud Dutreil, un ancien maire, Nicolas Perruchot, qui a été maire député, qui a eu, je pense, fait toutes les fonctions possibles, maire député région, enfin il a tout fait. Mais surtout, il a été maire de Blois et il a battu Jack Lang, donc je pense qu'il a une bonne expérience de celui dont je veux combattre la philosophie. Et la dernière s'appelle Lola Salem, peut-être moins connue du grand public, mais qui est une professeure à Oxford.
Et donc l'objectif, c'est de travailler avec des personnes dans chaque domaine, alors qu'ils s'affichent plus ou moins, parce qu'on sait que dans le domaine de la culture, compliqué.
Ouais, voilà, c'est compliqué.
Disons que ça penche plus à gauche qu'à droite. Et que dès qu'on s'affiche un peu trop, on peut se faire rayer la carte. En tout cas, la mort sociale est plutôt promise. Et puis, ils sont forts pour y réussir. Et donc, le principe, c'est vraiment d'avoir des gens dans chaque domaine qui vont fourmonter, qui vous font des propositions, ou qui font remonter aussi des problématiques.
Il y a vraiment les deux. C'est-à-dire qu'on part du constat, essayer d'analyser ce qui se passe dans le monde du cinéma, dans l'industrie du livre, dans l'industrie de la musique, mais vraiment par secteur, de faire remonter des problématiques et ensuite d'apporter une réponse. Et ça va être mon travail avec eux, avec chacun des spécialistes, qui pour le coup sont une petite trentaine répartis sur chaque domaine, et de se dire... Que devrait faire le politique dans telle situation? Et donc après, c'est le travail d'un think tank de faire ce qu'on fait, comme on fait quand on est lobbyiste, et c'est ce que j'ai fait dans ma carrière avant, c'est-à-dire vous allez voir les parlementaires, vous allez voir les hommes politiques, vous allez voir les élus, et vous leur proposez, en leur traduisant dans leur langage politique ou réglementaire, des idées qui émanent du secteur en lui-même. Vous êtes le trait d'union entre le secteur particulier et le politique qui doit voter la loi.
Alors il y a plein de problèmes, donc plein de choses à résoudre, et donc plein de choses à proposer. On va commencer peut-être par le principal. C'est lequel?
Je pense que celui qui défraie la chronique en ce moment, c'est l'audiovisuel public. Je ne sais pas si c'est le principal, mais ce sera un des sujets les plus importants à traiter parce que c'est devenu vraiment un sujet sur lequel beaucoup de Français se crispent et parce qu'il y a eu cette commission d'enquête parlementaire menée par Charles Alloncle qui a débusqué certains dysfonctionnements, pour le dire élégamment, de l'audiovisuel public.
Alors moi, justement, je trouve ça intéressant, c'est qu'on voit dans le ministère de la Culture, on a découvert, ou beaucoup ont découvert, qu'il y a l'audiovisuel public.
Oui.
Vous avez le patrimoine, vous avez la création artistique. On a l'impression que le sentiment que la culture, c'est un peu fourre-tout, parce que entre Patrick Cohen, le patrimoine, une vieille église romaine au fin fond du Périgord, et le futur opéra qui va débarquer à Garnier, on ne voit pas trop les liens.
Mais je pense que c'est né d'une dérive lente et progressive dont on ne s'est pas tout à fait aperçu, qui est de l'extension infinie du périmètre du ministère de la Culture. Alors qu'il y a 50 ans, quand Malraux, qui est un peu ma référence phare, et je pense qu'il faut revenir à ce qu'il avait proposé, limitait beaucoup plus le ministère des Affaires culturelles, comme on l'appelait à l'époque. Alors aujourd'hui, l'audiovisuel a un petit peu changé, donc on n'est pas à l'époque de De Gaulle, donc il ne faut pas revenir en arrière, ça ne sert à rien, et ce ne serait pas possible. Pour autant, le fait que l'État investisse autant dans la création, pour moi, c'est un problème, parce qu'en plus, ça fait une culture d'État, et je pense que c'est plutôt au privé pour avoir une certaine liberté de s'emparer de ce sujet. L'État a plus à intervenir dans ce qui touche pour moi au régalien, c'est-à-dire l'éducation, le patrimoine, la défense de ses intérêts propres en tant qu'État. Donc on pourra y revenir parce que c'est un peu complexe, mais je ne pense pas qu'il faille à ce point intervenir dans la culture.
Alors quels sont les autres problèmes? L'audiovisuel public, c'est un point, c'est 4 milliards.
C'est ça, c'est quand même...
Alors peut-être juste sur l'audiovisuel public, on est sur ce dossier, c'est quoi? Alors s'il n'y a pas d'intérêt à ce que l'État intervienne sur ces sujets, c'est quoi? C'est la privatisation qui, à votre avis, est la meilleure optique?
Alors j'ai l'impression que le débat va toujours entre soit on fait comme s'il n'y avait pas de problème, et ce qui est plutôt la réponse de la gauche, soit on n'est pas content, donc on veut tout supprimer et on veut tout... ce qui est un peu la réponse de la droite. Voilà, ça c'est à droite. Et moi j'ai fait une réponse de Normand qui est, on peut peut-être trouver un entre-deux, c'est-à-dire limiter bien plus les missions de l'audiovisuel public et avoir un audiovisuel beaucoup, beaucoup moins coûteux et peut-être un peu plus rentable aussi, enfin se débrouiller pour avoir aussi des recettes. Et donc limiter, pour moi, l'audiovisuel public doit se concentrer sur un service d'information assez neutre, on appelle ça ce que fait Public Sénat, c'est-à-dire le fait de filmer les débats parlementaires, etc.
Toute l'information de tous les...
L'information sens très large et la diffusion, on va dire, de la vie démocratique. Et garder des chaînes comme peut-être France Culture, en étant un peu moins à gauche, ou Arte, qui sont du contenu pédagogique et de très bonne tenue. Mais en dehors de ça, je pense que tout ce qui est jeux télévisés, ça peut basculer dans le privé et ça trouverait preneur. Et ça n'a pas à être financé, selon moi, par les impôts des Français.
Et toute la partie fiction, création de séries, de téléfilms, ou même participation, parce que France Télévisions finance le cinéma français à hauteur de 60 millions d'euros par an.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on va revenir après sur l'État et tout, c'est intéressant.
Mais là, je pense qu'il faut trouver un...
Mais vous pensez que c'est le rôle du service public, à condition, évidemment, de faire un état des lieux, de virer ce qui ne marche pas. L'audiovisuel public doit aussi participer à ça, ou ça fait partie des choses qui, pour vous, n'est pas dans sa mission première?
Je ne pense pas que ce soit dans sa mission première, mais on pourrait réfléchir sur le périmètre et combien coûtent ces fictions. Est-ce que ça fait partie... Pour moi, l'État doit investir aussi beaucoup dans le patrimoine, et ce qui est de l'ordre du patrimonial, ce qui peut être des pièces filmées de la Comédie française, par exemple. Donc, après, on peut aller dans le détail de ce qui relève du patrimoine, enfin, de la sauvegarde du patrimoine, même immatériel, donc de la littérature, la musique et tout ça, et de l'éducation, qui est aussi, pour moi, une mission régalienne. Mais le soutien permanent à la création, pour moi, c'est... En fait, c'est un terrain glissant. C'est qu'après, pourquoi on soutient lui et pas un autre, et donc on s'y perd. Et je pense que l'intervention du privé peut être intéressante là-dedans.
Marc Aubryon.
Oui, d'ailleurs, on s'en rend bien compte avec le cinéma, notamment le cinéma des 70s, qui pourtant était
sous années 70.
Les 70, pardon. Qui pourtant était sous la censure de Giscard, n'a jamais été aussi subversif que maintenant. Et on voit bien que depuis le mitterrandisme, justement, avec les subventions, en fait, Mitterrand et Lang, en fait, ont réussi à aspirer finalement la création et obliger les créateurs à être dans leur sens. Donc, en fait, il faudra si on s'écoute, il faudra revenir finalement à une culture faite par des artistes et couper les subventions en fait, pour s'assurer qu'ils soient indépendants et oui. qu'ils retrouvent finalement leur originel sens de la création et de la subvention.
Exactement, mais je pense que ça partait peut-être d'un bon sentiment de vouloir subventionner la création. On se dit toujours que quand on commence en tant qu'artiste, c'est compliqué, que vos potentiels sponsors, mécènes, etc. vont peut-être pas comprendre votre art. On voit l'idée qui était noble, mais l'enfer est pavé de nobles intentions, et je pense qu'on en a vu les effets délétères aujourd'hui, et c'est ça, c'est qu'en fait, le monde de la culture est tenu politiquement, et donc doit servir l'État ou le... Enfin, pas l'État, mais le gouvernement qui sera en place et qui ne change pas trop ces derniers temps, et donc il y a plus ce côté, c'est ça, subversion, ou rapport à la créativité. On est d'autant plus créatif quand on a besoin d'en vivre, je pense.
J'entends votre argument, mais est-ce que c'est pas quand même une chance du modèle français d'avoir protégé son milieu de la culture? J'entends aujourd'hui les agriculteurs qui sont en révolte et qui demandent, une partie d'entre eux, une exception agriculturelle en se calquant sur le modèle de la culture. C'est-à-dire en expliquant qu'il y a un protectionnisme de fait qui permet en France à la France de produire du contenu culturel et d'avoir, par exemple, encore un cinéma de bonne tenue.
Alors, je suis tout à fait d'accord.
Il faut le chercher quand même, le cinéma de bonne tenue.
Ah si, non, franchement, il y a de très bons films, mais... Bon, bref, on va pas rentrer dans le cas par cas.
Ah si, on va rentrer après.
Ah, si, ok, d'accord.
Alors là, on va y aller.
On va se régaler.
On va ouvrir le capot, on va tout regarder. Allez-y.
Pour le cinéma français, oui, je pense qu'on a trouvé un système qui a des failles et peut-être qui dépense trop, le CNC, mais qui est un système quand même très, je pense, très solide et qui fait qu'on est le deuxième cinéma du monde après le cinéma américain et qu'on ne s'est pas effondré, contrairement au cinéma italien, par exemple, qui a eu son âge d'or dans les années 50-60 et qui ensuite s'est complètement effondré et qui aujourd'hui bénéficie plus du CNC que de l'argent italien pour faire ses propres films. Pour autant, je pense qu'il faut revoir peut-être le fonctionnement du CNC, la manière dont sont décernées les subventions. Enfin, c'est un dossier très, très, très technique, mais régulièrement, la Cour des comptes pointe quelques dysfonctionnements sur le rapport entre l'argent dépensé, donc l'argent du contribuable, et les faibles recettes. Et voilà, et ça, je pense que c'est typiquement un dossier. Je prétends pas avoir un avis très tranché là-dessus, mais je pense que c'est typiquement du rôle de mon think tank disruptif de réfléchir à ça et de proposer aux politiques quelque chose qui défende le cinéma français, mais qui ne soit pas forcément une addition de dépenses de la part de l'État.
On va expliquer à nos éditeurs peut-être le fonctionnement du CNC. Donc le CNC alors, ne s'occupe pas exclusivement du cinéma. Il y a le cinéma, les jeux vidéo, il y a beaucoup de choses dedans. Le cinéma, ça doit être un peu moins de 200 millions d'euros par an de mémoire. Et c'est un état dans l'état parce qu'ils émettent des taxes, ils perçoivent l'argent de ces taxes.
Oui.
Alors vous avez par exemple sur le cinéma la TSA, on appelle ça une taxe sur le billet d'entrée, ils prennent 10% de votre billet. Cinéma, vous avez des taxes sur les plateformes Netflix, Amazon, des taxes sur les chaînes d'information, les chaînes de télévision. Bref, il y a plein de taxes et avec ça, ils redistribuent. Donc ça reste quand même une subvention déguisée ou sinon la TVA n'est pas une taxe, n'est pas un impôt non plus. Et ensuite, vous avez plein de commissions avec des collèges de personnes, et puis là, pour des avances sur recettes, pour des aides aux écritures de scénarios, pour des salles de cinéma. Et ensuite, chaque collège décide à l'année à qui va attribuer cette subvention, et c'est en effet assez opaque. Et la Cour des comptes et l'inspection générale des impôts, rapport critiquent un peu le système.
Exactement. Et parce que là, en plus, avec le cinéma, on touche à des sommes qui sont très très importantes. C'est-à-dire que c'est pas la même chose que le monde de l'édition. Là, on est sur des centaines de millions d'euros. C'est pas tout à fait les mêmes budgets.
Ça coûte un peu cher, en effet. Mais revenons à vos think tanks et puis après on repartira dans les débats, évidemment, parce que s'il n'y a pas de débat, c'est pas drôle, tout en restant courtois. Donc, est-ce que vous expliquez qu'il y avait une doctrine aujourd'hui de la culture en France, une doctrine politique de la culture qui est l'héritage de Jack Lang, et donc vous voulez produire une contre-doctrine, vous voulez éliminer la doctrine et ensuite, en fonction des sujets, proposer des solutions à nos élites et à nos députés?
Alors, je pense que ça va de soi. On détruit une doctrine à laquelle on s'oppose parce qu'on en propose une autre. Et je pense que... Moi, je n'ai pas envie de m'inscrire juste dans le débat qui est un peu ce dans quoi s'est enfermée la droite pour moi dans ces dernières décennies, à savoir critiquer juste Jack Lang ou dire le ministère de la Culture, ça ne sert à rien, plutôt que de proposer autre chose. Donc le tout est de savoir à quoi sert le ministère de la Culture, est-ce vraiment utile, est-ce que ça défend les intérêts de l'État ou non, et si oui ou non, en fonction de ça, qu'est-ce qu'on propose concrètement. Donc je ne veux pas m'arrêter au simple constat, ni à la simple critique facile de dire « Ok, Jack Lang, c'était pas bien, bon bah oui c'est pas bien, mais qu'est-ce qu'on fait à la place ?» Parce qu'il a aussi quelques réussites à son actif, peu, mais...
Le prix unique du livre.
le prix unique du livre. Et même, je sais que ça fait débat, mais il a fait de la musique. Moi, je pense que c'est une réussite. Mais je sens que ça va faire débat ici.
On n'est pas très loin.
Il faut que ça aille.
Heureusement que Romaric n'est pas là.
C'est vrai.
Non, prix unique du livre, bien sûr. Très bonne.
Belle initiative.
Belle initiative parce que ça a protégé les libraires indépendants.
Alors, on a parlé au début, parce que c'est dans votre programme, évidemment, de remettre le beau au centre, la hiérarchie, hiérarchiser les choses.
Mon programme,
dans votre
je
programme, dans
pas
votre,
2027.
Non, non, pardon, dans votre programme, dans votre doctrine.
Oui.
Voilà.
Doctrine.
Doctrine, ça me fait penser à Monroe et donc maintenant à Dumroe, donc à Trump, donc ça me fait penser à la politique. Mais alors, banalisation des lieux, effacement des identités, appauvrissement esthétique, et donc il y a une crise culturelle. En France, et donc une crise culturelle de goût, puisque vous nous l'avez dit en entrée, très aimablement, nous sommes habillés comme des culs. Donc, cette crise du goût, d'où vient-elle ? Quelle est l'origine ? À quel moment ça a basculé ?
Quel moment ça a basculé ? Ce serait difficile à dater, mais je constate que ça va aussi avec une crise de l'éducation. Et donc, l'appauvrissement de la langue française, c'est assez terrifiant quand on regarde les archivina, de voir les petits dans les années 80, même, qui parlaient peut-être aussi bien que nous aujourd'hui. Et là, je viens de voir, par exemple, ce qu'a sorti le Centre National du Livre, qui dit que la moitié des 12-19 ans ne savent pas que les auteurs sont des personnes vivantes. Donc, je pense qu'il y a un lien entre l'appauvrissement de l'éducation et l'appauvrissement de la culture, du goût, de la subtilité, de la capacité à apprécier quelque chose de beau. Et donc, ce que je disais en préambule, c'est-à-dire le fait de mettre en avant plus le confort, l'utilitarisme, et ça va se retrouver un peu partout dans notre vie quotidienne, soit dans les vêtements, et je n'accusais personne ici, soit dans les façades, dans les villes, par exemple, le fait que les entrées des villes sont devenus immondes, des centres commerciaux à perte de vue, on n'a pas le souci de l'esthétisme dans les... Enfin, là, je fais à gros traits, évidemment, il y a des maires qui font très bien leur travail. Mais on est toujours en train de se dire quand est-ce qu'on va pouvoir rogner dans les budgets, il faut faire... Mais il n'y a jamais, en tout cas dans la considération politique et dans les débats politiques, on a l'impression que le côté esthétique est constamment balayé comme si c'était un truc de salon et qui n'était pas intéressant. Or, c'est ce qui quand même a participé au rayonnement de la France pendant des siècles, donc on pourrait s'en soucier un petit peu, et je pense que ça contribue aussi à notre déclassement mondial.
Donc vous faites un lien aussi direct avec l'école, finalement.
Oui.
Avec l'instruction, avec l'école.
Bien sûr.
Ça va de pair, quoi.
Pour moi, ça va de pair. L'éducation au goût, c'est pas... Enfin, je viens de le dire. L'éducation et le goût vont de pair parce qu'on n'apprécie pas naturellement une musique de Mozart. Enfin, je pense qu'il y a quand même une initiation au goût.
Donc, vous dire que Mozart est supérieur à un rappeur.
Oui.
Dangereux, ça.
C'est subversif.
C'est subversif, ouais.
Mais le pire, c'est qu'aujourd'hui, des gens disent que non.
Mais
d'ailleurs, d'où l'expression la plus horrible, il faudrait tuer cette personne qui l'a inventée. Le goût et les couleurs sont dans toutes les natures. Alors là, il faudrait assumer.
Ouais, tous les goûts.
Ça donne envie de ressortir la guillotine. Rémi Carlier,
on l'a ressorti pas mal de fois, là, déjà.
Oui, non, c'était Patrice Jean dans un entretien pour l'Incorrect.
Oui.
On avait fait une discussion sur la littérature. Et, et lui donc, parlait en tant que professeur. Il expliquait que l'école, finalement, les programmes scolaires n'étaient pas si mal, en lettres, évidemment, au collège, je crois, ou lycée, qu'importe. Mais il expliquait que le grand problème, c'est qu'en fait, il n'y a aucun relais dans la société. C'est-à-dire qu'on peut donner des bons livres et faire des bons cours aux élèves, sauf que comme la culture a disparu de la vie sociale, la porte de l'école franchie, en fait, plus rien va inciter cet enfant à continuer à lire. Donc, au-delà même de la question de l'éducation, moi, j'ai l'impression que c'est une question vraiment qui est dans les entrailles de la société et qui donc, en fait, est très difficile à résoudre.
Oui, parce que ça devient un phénomène de société, vous avez parfaitement raison, et ça n'est pas valorisé, par exemple, d'être cultivé. Enfin, on a l'impression que ça l'est, mais en fait, ça l'est pas du tout. Et c'est bien plus valorisé aujourd'hui d'avoir un gros salaire, d'avoir une belle baraque et une belle bagnole. Mais savoir réciter quelques poèmes comme ça, ça n'impressionne personne. On le voit par exemple avec les professeurs qui sont une des fonctions les moins bien payées et qui pourtant détiennent le savoir. Et c'est pas du tout stylé d'être professeur aujourd'hui. Alors que ça le devrait. Enfin, et puis dans les pays d'à côté, en Allemagne, ça l'est. Et je pense qu'on le voit partout en politique, comme je le disais sur les façades des villes, sur l'esthétisme dans l'urbanisme, mais même regarder les discours des hommes politiques. Enfin, je veux dire, on a eu une époque, je pensais à Malraux, lui il est écrivain, donc ça aide à écrire des beaux discours, mais aujourd'hui même le discours des politiques est assez pauvre en termes de subtilité de langage. On est justement dans des éléments de langage très, très creux, très vagues, il n'y a pas de style, ou très peu, à l'exception de certains, comme toujours je fais des généralités, mais on a perdu aussi même le... même le politique ne s'y intéresse pas dans tous les aspects de sa vie, même du coup en parlant français à ses électeurs.
Chers auditeurs, il est presque 19h, vous êtes dans Restons Courtois et nous recevons Marguerite Frison-Roche qui nous présente donc son laboratoire d'idées disruptif pour essayer de sauver la culture et retrouver un rayonnement qu'on a perdu, un rayonnement artistique, esthétique, culturel, un rayonnement qui a du goût. Mais vous savez que Radio Courtoisie qui essaye d'avoir du goût, essaye de participer à ce rayonnement, essaye de défendre la culture est une radio libre qui dépend uniquement de vos dons. Donc écoutez ce petit message et on se retrouve juste après.